Hey, cela étant dit, on a une invitée de prestige au téléphone, bien contente qu'elle ait accepté notre invitation. Elle s'appelle Marois Ritzky, députée indépendante de Saint-Laurent, qui est au téléphone. Bonjour, Mme Ritzky.
Bonjour.
Comment ça va?
Bien, merci. Ça va beaucoup mieux. Je me sens bien, puis très heureuse d'être avec vous cet après-midi.
Là, vous êtes où? Là, on se parle de où, présentement?
Là, je suis de retour chez moi pour faire l'entrevue, puis par la suite, je retourne en studio pour faire d'autres entrevues.
Parfait. Écoutez, vous avez écrit un texte, je dirais un texte choc, un texte d'opinion que vous avez partagé, entre autres, là, dans les journaux des Québécois. Et le titre est le suivant, « Le taux de fécondité, nous devons redevenir un Québec fou de ses enfants ». Et là, je me suis dit, enfin, un politicien, ou dans ce cas-ci, une politicienne, qui soulève le fait que non seulement on ne fait plus d'enfants, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on parle de la famille, c'est toujours en matière un peu négative. Qu'est-ce qu'on fait?
On dirait qu'il y a un tabou, hein? On dirait qu'il y a un tabou de dire que oui, on en veut des enfants.
Ouais.
Si vous me permettez, moi, quand j'ai annoncé que je ne me représentais pas, c'était en octobre 2024, je viens d'avoir mon deuxième enfant en l'espace de 19 mois. Puis même si mon mari m'avait offert que lui arrête de faire la politique et que lui me laisse moi continuer, j'avais décidé que moi, non. C'est pas ça que je me souhaitais, c'est pas ça que je voulais. Et j'étais plus capable d'être 4 jours/semaine à l'extérieur de la maison sans mes jeunes enfants. Puis elle me dit, ouais, mais quel message que vous envoyez? Mais le message que j'envoie, c'est le libre choix. Moi, voilà. Je salue toutes les femmes qui ont tracé la voie pour que les femmes comme moi, aujourd'hui, on puisse rêver puis aspirer à tout ce qu'on veut. Mais je me suis déjà réalisée. J'ai eu la chance d'étudier dans une des universités les plus prestigieuses aux États-Unis en fiscalité. J'ai maîtrise, en fait, j'en ai deux, j'ai un doctorat. Mais savez-vous quoi? Ma vie a été transformée quand j'ai finalement réussi à avoir mes enfants avec mon mari.
Mmh.
Moi, c'était une expérience transformatrice, mais qui vient avec son lot de défis. Et désolée de le dire ainsi, moi, j'ai été capable de me le payer. Mais c'est pas tout le monde. Alors, que voulez-vous que je réponde à la femme à côté de moi qui pleure sa vie à côté de moi parce qu'elle a dû attendre une année de plus pour économiser ses sous, pour refaire un autre traitement de fécondation in vitro parce que savez-vous quoi? C'est une des rares maladies au Québec qu'on doit encore sortir notre carte de crédit.
Parce que, bon, le taux de fécondité au Québec, là, on parle d'un bas historique, c'est 1,33 enfants par femme. OK?
Oui.
Comment on explique, premièrement, on va commencer par le début, comment on explique qu'on ne fait plus d'enfants au Québec? Là, vous m'avez fait un témoignage extraordinaire comme on en entend très peu. Moi, je lis ça. Moi, je rappelle souvent en passant là, que c'est le fun d'avoir des enfants. Moi, je n'ai un, j'aurais aimé en avoir d'autres. Ça n'a pas. Le bon Dieu en a décidé autrement ou la vie en a décidé autrement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait plus d'enfants au Québec?
Bien, première des choses, j'ai fait des recherches, puis savez-vous quoi? On n'a presque aucune étude à jour. On a des études qui compilent d'autres études. D'ailleurs, j'en cite une, celle du Cyrano, qui est quand même assez récente. Mais moi, j'ai cherché à savoir quel est le taux de spermatozoïdes chez nos hommes. Puis là, oui, je m'adresse à vous. C'est quand même assez intime. Mais c'est quand même crucial comme information parce que c'est ça qui va déterminer notre niveau d'infertilité collectif. Il faut savoir que l'OMS a déjà sonné l'alarme il y a plusieurs années. Il dit, écoutez, là, entre une génération, donc celle de mes parents et la mienne, bien, le taux de spermatozoïdes chez les hommes a descendu de façon importante. Or, il y a une étude de 2011 qui a été réalisée qui, au niveau de l'infertilité, 25 à 30 % de l'infertilité ici au Canada, c'est masculine, et un autre 30 à 35 % c'est nous les femmes. Mais là, on parle d'infertilité. C'est pas nécessairement causé par l'âge, soit dit en passant. Ça peut être aussi, dans le cas des hommes, un manque évidemment de spermatozoïdes. Dans notre cas, de nous, des femmes, ça peut être d'autres raisons. Puis moi, je suis pas du tout médecin, donc je vais laisser les médecins expliquer toute l'histoire des kystes, mais aussi de l'endométriose qui peut causer, qui cause en fait des effets sur l'infertilité. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que quand j'ai voulu écrire cette lettre ouverte, j'ai voulu me documenter. Et ça a été mon défi. J'étais allée lire une étude que j'aimais entre guillemets de Santé Canada, qui a fait environ 12 pages, qui avait aucune citation. En tout respect, moi, je suis aussi professeure à l'université. Moi, une étude là, qui me parle, mais que j'ai pas de chiffres, puis j'ai rien, j'ai pas de données, mais qui me dit c'est une étude. Pour moi, ça n'est pas une, ça ne se qualifie pas d'étude. Moi, je veux savoir collectivement, nous, au Québec, réellement, c'est quoi notre chiffre d'infertilité, pas celui de 2011, celui de 2026, parce que dans les années 80, donc la génération de ma mère, on est autour de 5 % et dans vers 2011-2012, on tombe autour de 16 % donc un couple sur 6. Mais déjà, pour moi, cette étude, elle est datée parce qu'il y a 15 ans que c'est écoulé. Donc, j'aimerais qu'on ait justement des gens qui se penchent là-dessus, que ça devienne un enjeu national, puis qu'on se dise, OK, mais si on a vraiment un enjeu au niveau des spermatozoïdes des hommes ou des ovocytes des femmes, bien parfait. Quel moyen qu'on se donne? La France, là, je ne sais pas si elle a eu récemment, je vais vous dire le titre, juste le titre du programme national de fécondité, ça va, je pense que tout le monde va faire réagir. Réarmement démographique. Mm-hmm. C'est ça le titre. Alors, eux, là, ça fait des années que c'est 4 traitements de fécondation in vitro qui sont payés, couverts par le régime public. Et ils disent, oui, on a une immigration, mais est-ce qu'on peut aussi miser sur d'autres options, qui est la natalité des gens, des Français, par exemple, ou aussi des Québécois, qui, comme moi, on est installés, on paye nos impôts, on a une maison, on a un berceau, on veut juste un enfant, puis on n'est pas capable d'en avoir parce que nous sommes infertiles.
Parce que si on reste 1,33 enfants par femme, ben on ne sera pas capable d'assurer le renouvellement naturel de la population. Donc, il va falloir se fier encore beaucoup plus sur l'immigration, qui n'est pas juste la seule solution. Là, on a parlé de possibilités de maladies, peut-être des spermatozoïdes pas assez forts, mais moi, j'ai un autre aspect à vous parler, puis de femme à femme, OK? Je trouve qu'on manque d'audace d'en parler ouvertement. Moi, j'ai plusieurs... Puis les auditeurs vont savoir, et les auditrices, parce que j'essaie d'en parler de temps en temps puis de ramener le sujet parce que je trouve tellement important. Parce que oui, on parle de perte de fertilité. OK, chez les hommes, à venir. C'est juste, on est en train de lever un drapeau. Mais il y a bien plus que ça, Madame Risky. C'est d'en parler avec les femmes au sujet de la carrière versus les enfants. Je m'explique. Je n'ai aucun problème à ce qu'une femme choisisse sa carrière avant d'avoir des enfants. Par contre, il y a des enjeux à partir dans la trentaine, OK, la possibilité de... En fait, on est moins fertile, OK, et ça baisse de façon drastique dans la trentaine. Le nombre de femmes qui m'ont dit qu'à 40 ans, finalement, j'ai réussi ma carrière, mais si je pouvais revenir en arrière, je le ferais parce que j'ai un manque. J'ai un manque qui n'est pas assouvi, c'est-à-dire que je ne suis pas capable d'avoir des enfants, puis je me trouve à 40 ans, puis je ne suis pas capable de tomber enceinte. Je trouve qu'on manque de conversations ouvertes entre les femmes pour dire, « Hey, les filles ou les femmes, vous avez le droit de choisir votre carrière, mais sachez que pendant la vingtaine, c'est là que vous êtes le plus fertile. Dans la trentaine, ça baisse drastiquement. Les femmes l'apprennent au courant de la trentaine ou à partir de 40 ans. Et le but étant juste de le partage de connaissances, de dire, il n'y a pas de problème si vous choisissez votre carrière, mais sachez que ça peut être plus difficile d'avoir des enfants. Je trouve que la conversation au Québec, c'est toujours de parler de l'émancipation de la femme et les enfants viendront après. Mais il se peut très bien que les enfants ne viennent jamais, puis ça fait mal.
Bien, ça fait beaucoup de choses. J'ai commencé avec une chose très importante. Vous avez parlé de l'information. Moi, je trouve que c'est la clé d'information parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait qu'ils peuvent congeler, permettez-moi l'expression, nos ovaires. Là. On peut les congeler. Mais moi, là, je ne comprends pas qu'en France, cette information, non seulement est disponible, mais la congélation, ça fait partie maintenant du programme national pour lutter contre la baisse de natalité. Donc, c'est gratuit. Mais sinon, désolé, mais ça coûte des sous. Puis moi, je vais vous dire, là, ma réalité, moi, je suis la génération... j'ai 40 ans, là, donc moi, ma génération, là, ma vingtaine, là, j'ai étudié. Après ça, ça a pris quelques temps. Moi, c'est pas uniquement ma carrière, ça a pris du temps à trouver l'amour avec un grand A. Donc, j'avais 36 ans. Puis après ça, savez-vous quoi? Quand que j'ai commencé à avoir un doute, là, après 3 mois, moi, ça marche pas. Mais là, on me dit qu'il fallait que j'attende 12 mois pour faire les tests. Et là, je comprenais pas pourquoi j'attends 12 mois, parce que moi, je considère qu'à 35 ans, 36 ans, si j'ajoute un an, je tombe à 36, 37. Donc, je n'aurais peut-être pas d'enfant avant 38, 39, là, si jamais, disons qu'on est infertile. Parce que moi, j'avais des doutes, je me dis, ma mère a eu 4 enfants, t'éternues dessus, puis elle tombe enceinte. C'est quelque chose qui ne marchait pas dans ma tête. Mais moi, j'ai fallu que je m'obstine pour faire les tests. Pour qu'on se rende compte après 3 mois qu'effectivement, on était un couple infertile. Mais imaginez si pendant 12 mois, j'essaie avec mon conjoint, puis pendant 12 mois, je vis des deuils. À chaque fois, tu as tes périodes, tu es comme déçu d'avoir tes périodes. 2 fois plus, tu l'es déjà en partant, mais quand tu essaies d'avoir un enfant, des fois, tu l'as encore plus. Mais moi, je pense que non seulement il faut avoir de l'information, puis oui, nous, les femmes, on peut tout avoir, mais des fois pas tout en même temps. Donc oui, moi je considère que j'ai réussi à avoir mon épanouissement. Non seulement j'ai rêvé grand, je me suis accomplie dans mes études, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de travailler dans les grands bureaux d'avocats à Montréal, j'ai eu la chance de faire ce que j'aime, j'ai eu la chance même de devenir une députée. Je considère que j'ai réalisé tout. Et là, j'aurais aimé peut-être que oui, savoir un peu plus tôt qu'il est possible qu'effectivement, à partir de l'âge de 36 ans, mon horloge biologique, là, si je ne congèle pas mes embryons, ça se peut qu'à ce moment-là, ça soit très, très, très difficile. Mais ce que j'ai appris en faisant de la recherche sur l'infertilité, peut avoir 28 ans et être infertile. Et ce que moi me choque le plus, c'est qu'au Québec, on ne prend pas cet enjeu-là plus au sérieux pour faire de la vraie recherche, puis de savoir, nous, là, quel est notre niveau d'infertilité, nonobstant l'âge, parce que des gens à 24 ans qui sont infertiles, mais ne le savent toujours pas.
Mais les campagnes là, de familles heureuses, là, des campagnes de sensibilisation, il y en a à gauche et à droite provenant du gouvernement. Okay? On en entend ici sur nos ondes. Mais une campagne de familles où les gens mènent des vies heureuses, c'est quoi, là? Ça fait plus 2026? Tu sais, parce qu'on va... Je trouve qu'on va loin dans le processus puis l'étude de l'infertilité, puis je comprends où vous voulez en venir. Tu sais, on pourrait peut-être juste commencer par la base, juste commencer par ça, puis redorer la vie familiale, que peut-être huit... C'est sans jugement, là, OK? Mais peut-être que huit séparations de suite, finalement, c'est pas de best life. Tu sais, juste finalement revenir à la base, parce que je veux dire, ça prend deux personnes... T'sais, idéalement, là, ça prend deux personnes qui s'aiment pour faire des enfants. Juste la base.
Ça peut être aussi un couple... ça peut être aussi... Moi, je l'ai rencontré dans des projets solo, des gens qu'ils ont pensé avoir un jour avoir l'amour, mais qui n'est jamais venu. Puis ça peut arriver. Puis moi, j'aurais pu faire partie de cette catégorie. T'attends. Puis c'est pas parce que tu vas pas en date. T'es allé en date, t'as juste pas trouvé. Mais moi, je lève mon chapeau à ceux qui disent « Mais moi, je veux tellement un enfant que je suis même prêt à être un parent solo. » Je leur lève mon chapeau. Parce que moi, c'est aussi des parents extraordinaires. Puis moi, c'est ce choix-là qu'ils font, que je veux juste les accompagner correctement pour qu'ils puissent réaliser leur rêve, parce que je trouve que c'est le plus beau trésor national qu'on puisse avoir comme Québécois, c'est d'avoir des enfants. Puis si vous me permettez, quand je regarde les jeunes couples, eux autres, le stress qu'ils vivent aujourd'hui, sont plus capables de se loger. Et c'est très difficile d'acheter une maison. Donc, les gens souvent veulent, et je trouve ça très normal, puis je salue aussi ça, de se dire, on va aller dans l'ordre, on va aussi avoir un toit convenable pour accueillir un enfant, et ça devient quand même difficile. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous donner un exemple quand je vous dis que des fois, là, nos politiques fiscales publiques ne sont pas réfléchies pour des familles. Vous vous rappelez, à peu près deux semaines, là, il y a eu cette histoire d'une ville qui voulait taxer les poubelles.
Oui.
Mais quand vous avez des enfants, je m'excuse,
les poubelles sont pleines de
couches. Alors imaginez si en plus j'ai une taxe supplémentaire pour ramasser mes poubelles, parce que non, désolé, je les mets encore, j'ai pas des couches renouvelables, moi je suis encore à bien, j'utilise des couches jetables, là. C'est mon choix, mais je ne comprends pas que cette double imposition, parce que moi je considère que quand je paye des taxes, ça va pour des services, alors mais tu sais, c'est pas réfléchi pour les familles ça, et quand vous voulez avoir une famille plus généreuse, moi j'aimerais ça, là, avoir un troisième enfant, mais là vous comprendrez que j'ai 41 ans, donc mon rêve commence à devenir de moins en moins réaliste. Mais rien n'est pensé pour les familles trois enfants. Tout est deux adultes, deux enfants. Je sais que je paye des abonnements au musée, au Biodôme de Montréal. Tout est deux adultes, deux enfants. Mais est-ce que nos politiques publiques en matière fiscale peuvent être réfléchies en considération des familles et des enfants?
C'est un excellent point. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est bien loin des luttes féministes des années 60-70 qui voulaient que la femme s'émancipe. Là, c'est travail réussi aujourd'hui. Les femmes ont accès au marché du travail plus que jamais. L'émancipation de la femme, elle est magnifique à constater. Sauf que quand on parle du taux de natalité qui est à 1,33 par femme, effectivement, comme vous l'avez inscrit dans votre texte ce matin, ça doit devenir une priorité nationale. Sauf que j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, faire des enfants pour sauver le Québec, ça veut rien dire à personne. Comment on fait pour ramener ça à l'échelle individuelle, pour ramener justement, puis vous avez abordé là, plein d'aspects, c'était super intéressant, mais concrètement, là, pour passer d'un problème à la réalité puis trouver des solutions, comment on fait pour faire comprendre aux femmes qu'il y a une importance cruciale à ce qu'on fasse des enfants pour le prolongement de notre société québécoise?
Ben peut-être que, là, je m'aventure, là, je suis pas du tout sociologue, mais peut-être que quand on est tellement stressé par la vie, ça devient difficile de se dire « je vais faire des enfants ». Quand on n'arrive pas avec le coup de la vie, là, ça peut paraître cliché, mais désolé, là, moi, je considère qu'on est parmi les plus taxés au monde pour des services qui ne sont pas toujours au rendez-vous, puis je reste polie présentement. Puis par la suite, les gens n'arrivent pas à se loger convenablement. Alors, c'est sûr qu'un projet d'enfant, généralement, plusieurs personnes vont essayer d'avoir toutes les solutions gagnantes pour bien accueillir l'enfant à la maison, puis d'être capable, évidemment, de subvenir à ses besoins. Dans le contexte actuel, moi, je regarde, puis peut-être que je n'aime pas faire ça, comme juste regarder au niveau de moi, parce qu'on ne peut pas prendre des exemples que mon échantillon d'amis. Moi, mon échantillon d'amis, mes amis qui sont allés en droit, sont devenus avocats, ils ont eu des carrières. Puis malgré cela, ils ont eu des enjeux au niveau de fécondation, mais ils ont aussi essayé d'avoir toutes les conditions gagnantes, puis de faire, entre guillemets, les choses dans l'ordre, puis d'avoir leur maison, tout ça.
Peut-être qu'on attend trop. On attend trop, je pense. Des fois, on attend trop, mais il faudrait savoir réellement les impacts de trop attendre. Ça revient à mon propos de début. C'est que j'ai l'impression qu'on ne donne pas toutes les infos aux femmes parce qu'on veut absolument qu'elles s'émancipent. Puis, en fait, puis moi, je ne veux pas empêcher ça. Ce n'est pas ça le point. C'est d'avoir les infos. Après ça, je vais prendre la décision qui va de soi. J'aurai ma carrière. Oui, exactement. Mais on ne parle jamais de ça parce qu'on va nous qualifier de droite extrême. Je comprends pas. Je trouve qu'il y a des femmes de 40 ans à qui je parle, parce que j'ai 40 aussi, qui ont passé à côté et elles ont des regrets, mais il est trop tard. Elle aurait pu en avoir, mais elle ne le savait pas parce qu'on a tellement voulu que les femmes aillent sur le marché du travail, puis c'est correct. Sauf que ce ne sont pas toujours des choix éclairés. Et c'est là qu'on manque, et c'est là qu'on doit avoir cette conversation-là ouverte, sans juger. Et si la femme décide de prendre sa carrière avant d'avoir des enfants, bien, c'est son choix, puis c'est bien correct. Mais au moins, elle a les informations.
Oui, peut-être que si elle savait qu'elle pouvait congeler ses embryons dès la trentaine, début trentaine, puis qu'elle peut les utiliser plus tard, ça reste une solution. Aussi pour ceux qui disent, par exemple, moi j'aimerais ça devenir associée à mon bureau, il me reste 2 ans, donc je préfère avoir mes enfants après d'être devenus associés dans mon grand bureau. Moi j'en ai des amis qui ont fait ça, mais ils ont dû débourser, c'est quand même des montants assez importants. Moi je demeure persuadée qu'il faut mettre plusieurs solutions sur la table. Évidemment, ceux qui n'en veulent pas, là, je vous le dis tout de suite, faites-en pas. Moi, je préfère avoir des gens qui se respectent dans leur choix que ceux qui font des enfants qui ne s'en occuperont pas et qui ne sont pas désirés, là. Alors, c'est bien correct. Ça, c'est ceux qui n'en veulent pas, ça vous appartient. C'est 100% votre choix. Puis moi, je le respecte. Mais ceux qui en veulent, là, est-ce qu'on peut les outiller correctement? Est-ce qu'on peut se dire, voici des politiques fiscales qui peuvent fonctionner, de s'assurer que nous, comme Québécois, on est capable de se loger correctement, là, puis c'est pas normal. Moi, je suis désolée, mais je considère que quand j'ai une génération qui ose même plus devenir propriétaire, comment pouvons-nous se dire encore mettre chez nous?
Mais il y a aussi une génération qui semble ne pas mettre en valeur les valeurs familiales. On entend de plus en plus, je dis pas que c'est peut-être un peu plus marginalisé, mais on entend quand même dans certaines universités des groupes de jeunes qui vont essayer de convaincre leur père de ne pas avoir d'enfants pour, mettons, sauver l'environnement, par exemple.
Ben ça, moi, j'ai pas connu ça, j'ai quand même été prof à l'université, mais non, je sais pas si c'est vraiment si c'est beaucoup répandu, mais tu sais aussi, je peux comprendre là, qu'il y a des gens qui vont être anxieux et co-anxieux, tout ça, je peux comprendre, mais moi, je l'ai pas mesuré, donc je pourrais pas m'aventurer là-dessus. Par contre, moi, je suis persuadée que ceux qui en veulent, mais ça doit être réglé, là. C'est quelque chose qu'on devrait arrêter. Permettez-moi d'apporter un exemple. Moi, là, la RAMQ, on rembourse la vasectomie, la ligature des trompes de Fallope. Est-ce normal qu'on ne rembourse pas les traitements de fécondation in vitro pour ceux qui désirent des enfants? Pour moi, c'est une aberration. Si on dit oui à un, on devrait dire oui à l'autre. Et dans mon cas, je ne comprends pas, puis il faut qu'on me l'explique, pourquoi que c'est l'État qui dit qu'après l'âge de 41 ans, c'est terminé, on ne couvre pas un traitement de fécondation in vitro, alors qu'en France, c'est jusqu'à l'âge de 45 ans, et qu'on n'a pas des études pour venir là, au Québec dire non, c'est l'âge de 41 ans. Moi, là, si mon médecin, mon fertologue, avoir fait des analyses par rapport à moi, dit non, par exemple, toi, Marois, tu peux faire des traitements qui peuvent apporter un enfant. T'as 42 ans, mais ton utérus se porte bien, tes ovaires vont bien. On y va, on l'essaye. Cette discussion-là est entre moi et mon médecin, non pas entre moi et le gouvernement. Alors, j'aimerais ça que ça aussi, on enlève le plafond d'âge. C'est pas à l'État de me dire jusqu'à quel âge que je peux avoir un traitement qui est couvert par la RAMQ.
Madame Ritsky, un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Là, je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais je viens de me rendre compte que j'ai un chandail rouge. Puis, je vous ai fait une promesse, c'est qu'on ne parlerait pas, évidemment, parce qu'il y a une enquête avec le Parti libéral, fait que je n'irai pas là. Par contre, puisque vous êtes indépendante, est-ce que vous diriez que vous avez un cœur libéral, péquiste, caquiste ou conservateur ces temps-ci? Y a-t-il quelqu'un qui vous interpelle dans les partis plus que d'autres?
Ben, vous comprendrez que j'habite dans le comté de mon mari. Dans Jacques-Cartier.
Oui,
je vais voter pour mon mari encore.
C'est une très bonne réponse. Je sens ici que votre famille va pouvoir continuer à être ensemble. Et puis comme dernière question, parce que vous ne pouvez pas les voir, mais moi, les textos qui rentrent, les gens trouvent que c'est rafraîchissant comme discours. Puis les auditeurs de Radio X sont contents de réentendre parler de façon positive de la famille, des enfants et des enjeux qui vont avec, au lieu du contraire, de ne pas en faire. C'est faisons-en, OK? Là, je me dis, dans 10 ans, Mme Ritsky, ça va être quoi votre titre la prochaine fois que je vais vous parler? Est-ce que ça va être première ministre du Québec?
Non, moi, j'ai annoncé à mon départ de la politique.
Mais là, je vous parle dans 10 ans. Je peux en mettre 15.
Non, non,
si
mais
vous
dans 10 ans, moi, mes enfants vont être encore aux primaires. Et moi, j'avais clairement dit, si je revenais, c'était minimum pas avant 15 ans. Parce que, vous savez, j'ai fait le documentaire Les cas silencieux qui porte sur la sous-scolarisation des garçons au Québec. Mm-hmm. Puis que pendant des années, on a les chiffres au ministère de l'Éducation du Québec. Et nous avons rien fait pour aider nos garçons à graduer de l'école secondaire 5 dans les mêmes temps que les filles. Oui. Alors que l'Ontario, là, eux, là, ils ont donné des moyens de leurs ambitions et que les garçons graduent à des taux à nous faire rougir au Québec. Et moi, j'ai compris en faisant mon documentaire que le primaire, le secondaire, c'est névralgique, non seulement pour tous les enfants, mais j'ose dire, encore plus particulièrement pour mes garçons. Et je mets un temps fou en lecture, parce que souvent, les gens regardent le documentaire et disent « Mais Marois, c'est une chose que je dois changer avec mes gars. » Gars ou filles, tout doit être fait dans la lecture. Et s'il vous plaît, l'école, il y a des gens qui aspirent à être premier ministre, là. Je sais qu'il y a une course à la direction à la CAQ. Moi, je le dis, là, en Ontario, ils essaient de régler les enjeux de lecture avant la 4e année primaire, parce que c'est une année pivot. Et si vous avez réglé tous les enjeux d'apprentissage au niveau de la lecture en 4e année primaire, votre enfant a de meilleures chances de réussir et dans une coupe de 80% de chances d'obtenir son secondaire 5 dans les temps, alors que l'inverse est improportionnellement vrai, à 80% de chances de ne pas réussir son secondaire 5 dans les temps. Et moi, j'aimerais tellement ça qu'un jour, au lieu juste de se comparer sur notre richesse collective avec les Ontariens, qu'on regarde ce qui a été fait. D'ailleurs, c'était fait par des professeurs-chercheurs québécois, soit dit en passant, on n'a pas à rougir de la recherche québécoise, mais il y a quelque chose qui nous échappe, je trouve, en ce moment, en éducation, tant qu'on sait qu'il y a autant de jeunes garçons qui non seulement vont décrocher, ou d'autres vont prendre 7 ans à faire leur secondaire 5 alors que ça s'appelle un secondaire 5.
Ben là, il va falloir se reparler parce que c'est un sujet bien intéressant. Moi aussi, j'ai des choses à dire justement sur la scolarisation et nos garçons.
Ça me fait plaisir. D'ailleurs, on fait une conférence. On attend plus de 700 personnes à la fin du mois sur cet enjeu.
Et vous faites une conférence où?
J'ai fait avec les enseignants de Montréal. Okay. Alors, je viendrai à Québec. Allez-y.
Ah. Bon, ben, vous nous ferez le message puis on partagera l'information avec grand plaisir. Mais je vais quand même reposer ma question, mais vous avez le droit de répondre à l'intérieur de 30 secondes. Okay? J'ai dit 10 ans, on a monté à 15, je mets ça à 20 ans. Qui dit mieux 20 ans? Donc, vous allez avoir 60. Est-ce qu'à 60 ans, on va pouvoir dire Marois Ritsky, première ministre du Québec?
Je pense pas. Je vais me réaliser différemment. Je veux être pertinente encore. Je veux déranger encore de façon positive. Je vais amener des sujets qui sont peut-être controversés, des tabous. Mais je pense que je suis capable de faire avancer certaines causes différemment à ma façon.
Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir à l'antenne.
Merci.
Merci, Marois Ritsky. Une première à Radio X, députée indépendante de Saint-Laurent. On la remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
On ne sait pas ce qui s'est passé, là, mais le Parti libéral l'a tellement échappé.
Mais c'est incroyable.
C'est l'enfer.
Puis, by the way, chers politiciens et chères politiciennes, Ça fait longtemps qu'on se dit qu'on devrait parler de famille, parler de faire des enfants, d'arrêter de laisser tous les autres nous dire que c'est négatif. Nous dire que, en passant, je veux le rappeler, c'est vraiment la plus belle chose qui peut vous arriver. Là, je parle pas à ceux qui veulent pas en avoir parce qu'ils sont pas faits pour ça ou quoi que ce soit. Je parle de ceux qui se feront influencer par les gens qui sont négatifs. Quand vous allez avoir des enfants, là, c'est vrai que la vie change, mais ça vous apporte des émotions que jamais vous vivriez sans en avoir. C'est indescriptible, OK? Il y a des passes plus difficiles, mais oui, on a des hanches après. Quand... Hey, ça, les hanches, par exemple, j'enlèverais ça, OK?
Mais, story.
Pour juste la fois où votre garçon finit par être assez vieux pour vous texter « Je t'aime, maman », ça vaut bien plus que le million. On s'en va à pause.
Willette. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.